Ce dont va nous parler Ramiro ce soir, c'est effectivement le rôle que peut jouer le savoir, la connaissance, dans effectivement la mise en œuvre de cet objectif, ma foi, très très ambitieux. Donc je lui donne la parole tout de suite.
Et bonsoir. Et je suis bien content d'être là. Et je suis très reconnaissant de Pierre, de Jocelyne, qui m'ont invité il y a quelques mois déjà. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et je suis ravi d'être ici parmi vous, et dans cet endroit incroyable. Et ça nous fait du bien d'être ensemble. Il fait chaud en plus. Je suis un peu sonné par les claques des clips. Et j'ai besoin de quelques minutes pour recomposer un petit peu la figure. Et c'est le dernier et l'avant-dernier, c'était très, très complexe, très dur. Et puis, je suis là depuis quelques heures et j'ai l'impression que j'ai beaucoup appris. Et j'ai rencontré quelques personnes ici. Et on a fait un parcours en voiture avec Léonore et Gabriella, Gabi. Et merci aussi de ce parcours d'ex jusqu'ici. Et j'ai entendu des choses qui me touchent au cœur. Et ça, on est tous pareils finalement. On a les mêmes problématiques, les mêmes joies aussi. Et je voyais les deux enfants là tout à l'heure qui étaient assis ici. Moi aussi, j'ai des enfants. Et on est les mêmes. Et ça, c'est le plus important. Je ne suis pas un scientifique. Je suis désolé. Je ne sais pas, dernièrement, on m'invite à parler dans des endroits très bizarres. Parler avec des économistes. Je ne suis pas un économiste non plus. Ici, tout à l'heure, ça m'est revenu à l'esprit. Il y a 2 ans, on m'a invité à parler avec dans un monastère et avec des moines bouddhistes. Et on était pareils. Ils étaient bouddhistes, moi j'étais bouddhiste aussi avec eux, je crois, un peu. Donc c'est un apprentissage très important de constater qu'on est les mêmes et qu'on a les mêmes droits et les mêmes devoirs et les mêmes responsabilités et aussi les mêmes espoirs et parfois le même pessimisme. Et je ne peux pas faire des conférences parce que je ne suis pas capable d'en faire une. Et quelque part aussi, je m'oppose à cette figure de la conférence. Et j'étais, avant de m'engager dans la politique, je suis un universitaire. Et donc, j'apprécie davantage le lieu d'échange et de dialogue et de critiques et de questions. Donc, tout à l'heure, j'aurais voulu faire ça en un cercle, mais là, je crois qu'on est trop nombreux et qu'on ne pourrait pas organiser ça autour. Mais on va imaginer ça. Deux choses d'abord pour commencer. Et l'Équateur, et je ne sais pas si vous connaissez, l'Amérique du Sud, donc l'Amérique latine, et quoi d'autre sur l'Équateur? Du côté du Pacifique, en plein milieu de la planète. Et son nom vient d'ailleurs d'une aventure scientifique du 18e siècle, fin du 18e, liée à une expédition française qui avait un caractère scientifique et politique, évidemment. Et à partir de cette expédition, de cette mission scientifique, Godin, Jussieu, La Condamine et d'autres. Et l'Équateur a adopté ce mot pour se définir, Équateur. Nom très bizarre d'ailleurs, et très très bizarre, qui n'a pas de rapport avec l'histoire culturelle de l'Équateur, du pays en tant que tel, de ses origines. L'Équateur aurait pu facilement s'appeler Quito. Quito, qui est le nom de la capitale et qui fait appel à un peuple des Andes. Donc ça aurait pu s'appeler Quito, mais ça s'appelle l'Équateur. Voilà. Et deuxième chose, l'Équateur vit depuis quelques années un moment historique très important. Très important. Et je dirais, peut-être le moment du point de vue sémantique le plus intéressant de notre histoire moderne. Et il y a eu une vie politique très compliquée depuis toujours, mais qui a débouché dans une situation de conflit profond dans les années 90, mais profond, l'enfer. Il peut y avoir pire. Hein. Il y a toujours pire. Donc on ne va pas se plaindre par rapport à ça. Une situation très, très difficile qui a déchaîné. Mais toute cette grammaire, elle n'est pas correcte. Mais on va le dire quand même, qui a déchaîné une mouvance citoyenne très importante. Et qu'à mon avis, a quelque chose de très particulier, c'est que cette mouvance citoyenne importante de la fin du XXe siècle, donc, a été réalisée, a pris de l'oxygène dans les diversités. Ça n'a pas été un truc dogmatique et la tête dans le guidon, on dit. On a entendu cette phrase 3 ou 4 fois l'après-midi. Non, là, ça a été vraiment quelque chose de très hétérogène dans la diversité, dans les diversités, et de tout point de vue. Donc, vous pouvez installer dans vos esprits l'idée de la politique, par exemple, des dogmes politiques qu'à un moment donné sont interrogés, mais aussi des dogmes historiques ou des vérités même historiques qu'on met parfois de l'avant ou on met un petit peu à côté dans d'autres circonstances et des savoirs aussi qui ont émergé et ça a donné effectivement lieu à quelque chose de très nouveau qu'on a appelé à un moment donné, de manière un peu dérisoire, et les gens qui étaient au pouvoir, comme quelque chose lié à du mauvais. Et en espagnol, on appelait les gens qui sont installés, qui étaient en réalité le peuple équatorien qui sont installés dans cette mouvance, on les appelait les forajidos. Je ne sais pas s'il y a des hispanophones ici. Des forajidos, c'est des malfaiteurs, des hors-la-loi. Voilà. Donc, mais c'est intéressant cette définition de ces hors-la-loi qu'on était tous, finalement, tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les adultes, les métis, les plus bronzés, les noirs, tous, quoi, de toutes les origines, de la côte, de la montagne, de la Amazonie, etc. Et donc cette mouvance a débouché et dans des successifs conflits politiques qui se sont démarqués finalement en 2007 et lors d'une élection présidentielle et qui était menée par l'actuel président de l'Équateur, Rafael Correa, qui est le président donc depuis 2007. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que on a estimé, les Équatoriens, que la vie politique équatorienne avait atteint un non-lieu, un état de non-lieu, et qu'il fallait tout changer, mais on a essayé de tout changer tout le temps. Mais là, on a réussi à peu près, on va le dire comme ça. Et parce qu'on s'est mis d'accord, là, quand je dis « on », je veux dire la société équatorienne, sur quelques principes. Je ne veux pas vous raconter toute cette histoire parce que ça serait trop long, mais je dirais qu'on s'est mis d'accord sur au moins deux principes. Un principe, c'est qu'il fallait réinventer l'État équatorien, qu'il fallait vraiment s'arrêter un peu et se dire qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi la société qu'on veut et comment on peut entamer le 21e siècle autrement. Parce qu'en plus, c'est des pays qui ont beaucoup de ressources culturelles, naturelles, économiques, et de toutes sortes. Et c'est catastrophique qu'il y ait tant de souffrances de toutes sortes. Donc on se dit, il faut réinventer, il faut repenser tout ça, et donc ça a donné lieu à une constituante. Et en deuxième lieu, on s'est mis d'accord sur le fait que l'Équateur, les Équatoriens, et on s'est mis d'accord sur le fait que les Équatoriens voulaient avoir un leitmotiv en commun qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose en commun qui nous rassemble. Et on a, puisque notre mode de pensée, je dis à titre personnel, est très occidental, cartésien, rationnel, etc. Et là, je crois que les gens les plus importants, ça a été les personnes qui provenaient des sensibilités, voilà, et culturelles et épistémologiques, on va dire des gros mots comme ça, et philosophiques, et différents. Et donc, on a mis sur la table de discussion l'idée qu'on est là pour vivre bien, le bien vivre. Et en quichua, le mot qui sert à dire ce bien vivre, c'est sumac causai. Donc ça, c'est intéressant aussi que ce terme qui vient d'une autre cosmovision pénètre dans l'univers linguistique de l'espagnol. Mine de rien. Si vous pensez à la mathématique, c'est comme si vous mettez un virus d'un autre langage dans cet univers de langage qui va l'éclairer. C'est joli quand même, même si c'est difficile. Donc le summa causae est devenu quelque chose de lumineux. Et qu'est-ce que ça signifie? Donc, comme personne ne sait, il a fallu et il faut encore et discuter. Et comment discuter par rapport à ça? Évidemment, des gens comme moi, qui sont plus dans les universités et, on va dire, orthodoxes, on aime bien les choses qui avancent vite, efficaces, des mots comme ça, pragmatiques, etc. On est nul pour répondre à cette question. Parce que pour répondre à cette question, il faut du temps. Et il faut discuter. Il ne faut pas aller trop vite. Du temps. Le monsieur, il disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut du temps. Et à un moment donné, il faut bien et prendre conscience que ce temps est important. C'est le temps, la durée, etc. Donc, l'Équateur, la constituante, pour se dire que la société veut bien vivre. Qu'est-ce que ça ne signifie pas? Donc là, c'est très facile. Ça ne signifie pas être plus riche dans le sens que pourrait le définir un journal de la finance. Être plus riche, avoir plus d'argent, des comptes bancaires énormes, etc., etc. Être plus riche au sens d'avoir plus de bijoux, par exemple, ou, je ne sais pas, des choses dont on n'en a pas besoin. Mais c'est difficile quand même à préciser ça. Mais on peut dire finalement que et bien vivre veut dire vivre bien sans abîmer et l'entourage. Donc il est apparu un concept important qui est celui de la nature. Mais pas seulement comme idée, comme on en a l'habitude d'en parler. L'environnement, c'est l'environnement, il faut protéger l'environnement, etc. Parce que là, on est tous d'accord, c'est pas trop compliqué à faire du dogmatisme par rapport à ça. Mais il y a eu une avancée très importante dans cette constituante. Et c'est que c'est unique dans l'histoire du monde, de l'humanité, ce qu'on a décidé que la nature a des droits. Que ce bien-vivre ne peut se faire en dehors de la nature, mais que c'est comme ça parce que la nature, elle a des droits. Ce n'est pas juste quelque chose auquel on se réfère. Et là, il y a une responsabilité qui s'engage, politique, sociale, de tout le monde. Donc, vous voyez comment ça avance. Là, vous avez quelques éléments déjà. Vous pouvez vous faire un peu l'image de tout ça. Les premières années du gouvernement, j'ai participé dans la constituante et dans le domaine culturel, on a défini les droits culturels du pays, etc. Et une participation très large de la population, pas de tout le monde, mais de la population en général. Je raconte toujours, l'intérieure constitution de l'Équateur fut écrite dans une caserne militaire. Il y avait une douzaine de mecs, d'hommes, la cinquantaine. Je crois que la plupart des avocats, des juristes, qui ont établi une constitution. Et qui, après, on ne nous a pas demandé si on était d'accord. Donc, vous voyez bien. Et donc, les deux premières années, ça a été ça. La mise en route de cette question, et puis des discussions très, très techniques du monde contemporain. Et, par exemple, l'Amérique latine, le Nord, qui est là de témoin, et la dette extérieure. On ne s'en sort pas, comme le maire ici qui ne s'en sort pas. qui est endetté partout. On peut lui demander à quoi vous dépensez tant d'argent, qu'est-ce que vous faites avec de l'argent, monsieur. Si les tomates sont trop chères pour vous, les tomates bio, peut-être vous dépensez mal l'argent, monsieur, n'est-ce pas? On va vous faire une audite de vos finances. Il aurait fallu lui dire. Une audite de la finance municipale. Donc nous, on a fait une audite de la dette extérieure de l'Équateur et on a déterminé que cette dette était illégitime, immorale. Immorale. Donc vous voyez le poids des mots. C'est très important, les mots et son poids. Donc ça, c'est la première partie. Des choses comme ça, très techniques de la politique occidentale contemporaine. Les institutions. Quelles institutions pour quelle société? Des ministères, des instituts, des hôpitaux, des écoles aussi, des universités. Est-ce qu'on s'en sort avec ça? Des banques. Quel type de banque? Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et on a réussi à recadrer plus ou moins les choses très vite. Ce n'était pas très compliqué. C'est toujours compliqué, mais compliqué, ça fait partie de la vie. Mais on a recadré quand même pas mal de choses. Et par exemple, on n'a jamais été dans l'incapacité, comme ce fut le cas depuis des décennies, de payer le salaire des instituteurs. En Équateur, on ne payait jamais les instituteurs à la fin du mois, ou les médecins. Jamais. Si vous étiez instit, vous étiez foutu. Donc on a organisé mieux la maison, on va dire. Sans aller au fond de la chose, on a récupéré le sens du public, de l'État, l'importance de l'État, l'importance du public. Mais comme ça, parce que je dirais comme quelque chose qui vient du sens commun. Et voilà encore un mot, des mots importants, du sens commun. Du sens commun. L'économie du sens commun. C'est important, ça. Après, les choses se compliquent parce que c'est toujours plus complexe. Après, vous êtes légitime au niveau de votre société, mais votre pays existe dans un concert régional, le monde, les intérêts des corporations, les États-Unis aussi, et Julian Assange, Edward Snowden, Apple, Google, les pharmaceutiques.
Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de la façon dont vous avez réintroduit une certaine moralité dans le règlement de la dette extérieure de votre pays?
Il fallait payer la dette. Il y avait des échéances. Maintenant, la présidente argentine s'est vue attaquée par des fonds, voilà, immoraux, absurdes. Donc il fallait payer. Il y a toute une technique là derrière. Mais en fait, ça s'est passé ici en France. On a engagé une équipe technique pour nous accompagner là-dessus. On a dit que la dette était immorale. Le prix de la dette a chuté, évidemment. très vite, ça a chuté, parce qu'ils ont dit, là, on est foutu, parce qu'on a dit que c'est immoral, donc, et on a publié un rapport que vous pouvez le consulter en Internet, ça vaut le coup de le regarder. Il y a les noms des personnes qui ont fait ceci, cela, tata, les institutions, les emprunteurs. On nous empruntait de l'argent qui servait à rien, qui n'a jamais été utilisé pour le bien commun. Donc, le prix a chuté. Et puis, on a acheté une bonne partie de cette dette à un prix dérisoire par rapport à ce qu'ils demandaient. Encore, il aurait fallu ne pas payer. De toute manière, on les a payés un peu.
Elle valait que
10%
de sa valeur ?
Elle valait, à la fin, je crois qu'on a payé entre 20 et 30% de la valeur. C'est très bien. Donc après, on n'avait plus de dettes. Et on nous a toujours dit que c'était impossible, qu'on allait être en default et que personne n'allait nous emprunter. On a mis à la porte le FMI, la Banque mondiale, et on a géré nos affaires de manière souveraine. Mais ça nous éloigne un peu de notre sujet. On a contesté le système capitaliste tel qu'il existe dans les pays du Sud. C'est une contestation du système capitaliste tel qu'il existe dans les pays du Sud. Voilà. Notre monnaie, en l'année 2000, et le système bancaire a fait un clash, et les banquiers ont expolié les ressources de l'État. Donc la société équatorienne a payé aux banques, a subventionné les banques pour qu'elles ne ferment pas. Finalement, elles ont fermé. Et le dernier président de l'époque, Jamil Mahuad, qui a pris la fuite et qui vit aux États-Unis tranquillement, et a imposé le dollar en Équateur. Et le président Correa le dit souvent, parce que en Équateur, maintenant, sortir du dollar viendrait à une déstabilisation sociale affreuse. On ne sait pas qu'est-ce que ça pourrait se passer avec la société équatorienne. Parce qu'on est comme ça, les êtres humains. On a une instabilité monétaire, quand même, une certaine richesse. Et voilà. Et cependant, on a proposé des systèmes alternatifs. Et donc, depuis quelques années, on met en place une monnaie régionale qui s'appelle Sucre et qui sert à déjà à des échanges directs entre des institutions, des États, des associations. Et ça commence à avoir un certain poids. Mais il y a tout à faire par rapport à cette souveraineté monétaire. Notre souhait à nous en Équateur, c'est qu'il y ait une monnaie de l'Amérique du Sud au niveau du Mercosur. C'est un chantier. Donc, c'est une mise en crise du système capitaliste. Mais ce système capitaliste continue à évoluer. Et alors que nous arrivons tout juste à rentrer dans le domaine du développement industriel, le capitalisme du Nord vit autrement. Il continue à croître dans ce que nous appelons un capitalisme de la connaissance. Et là, nous n'avons pas non plus de cartes à jouer. Parce qu'en fait, nos sociétés sont entièrement dépendantes de la production de savoir du Nord. Donc, on n'est pas souverain en termes de développement technologique, des industries, que ce soit par exemple l'industrie pharmaceutique. On ne produit pas des médicaments, véritablement. Et on achète parfois des licences pour produire des médicaments, mais ce sont les grandes entreprises qui gèrent tout ça et qui nous imposent des prix, qui nous imposent des modes d'attaquer les maladies, etc. etc. Donc, la dérive du capitalisme contemporain vers le développement d'un système de connaissances de plus en plus sophistiqué ne représente pas pour nous un espace de liberté. C'est plus ou moins ça. Donc, cette constituante, on a mis en plein centre du projet de développement vers le bien vivre en Équateur et la question de la connaissance, du savoir et en rapport avec le modèle de société qu'on pourrait développer. Donc, par rapport à ça, on a essayé d'attaquer certains chantiers, dont le chantier de l'éducation supérieure, de l'éducation élémentaire et secondaire, et de la recherche. Et on a un chantier très très large par rapport à ça, et qui fait sens en relation avec les développements scientifiques des pays du Nord. Par exemple, on a un très large une large quantité d'étudiants équatoriens qui font des études scientifiques dans les pays du Nord, en France, aux États-Unis, et en Angleterre, en Allemagne, etc., etc. On a réformé les systèmes universitaires équatoriens. Et d'ici jusqu'à là, on a tout changé. On a changé le régime académique, les profs, les domaines de recherche, on a créé des universités, etc., etc. Et ça, c'est notre mission principale au niveau des investissements publics, et qui se développe depuis 2 ans et demi, 3 ans, parce qu'il y a une nouvelle loi qui met l'accent sur ces questions. Et quel est l'enjeu pour nous par rapport à ça? L'enjeu, c'est d'être souverain par rapport au développement des industries dont on aurait besoin. Par exemple, l'énergie. Jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, une partie de l'énergie de l'Équateur est produite par la... via diesel et pétrole. Donc, il faut changer cette matrice énergétique. Donc, on est en train de changer la matrice énergétique. Et en 2017, on ne va plus produire de l'énergie avec des matériaux fossiles. Et on va produire de l'énergie, des énergies hydroélectriques. Donc, renouvelables. Et on va être excédentaire par rapport à la production d'énergie. Donc on va pouvoir vendre de l'énergie. On ne va plus avoir besoin de ça. Et de l'énergie dont le pays a besoin pour fonctionner. Que ce soit de l'électricité dans les foyers, que ce soit pour les industries, etc. Pourquoi ? Parce que l'Équateur est un pays qui dépend du pétrole. Et le pétrole est une... Bon, déjà, il est polluant, mais ça a produit des sociétés très corrompues. Ce n'est pas juste le problème de l'environnement. Pour nous, le pétrole, dans nos sociétés, le pétrole fut, à un moment donné, une peste. Ça a attaqué tout le système de cohésion sociale.
Je comprends bien que produire l'énergie électrique par l'hydroélectrique, c'est une super bonne solution qui coûte pas cher, et quand c'est suffisant avec ça, c'est royal. Par contre, ça résout pas trop le problème des transports et de tout ce qui ne peut pas vivre sur l'électrique. On parle de la voiture électrique, mais en termes environnementaux et en termes de matières premières, c'est une large connerie. Je voulais savoir si vous avez aussi creusé, parce que vous aurez toujours du pétrole en l'état, même avec l'hydroélectrique.
Oui, quand on regarde l'économie équatorienne, c'est un pays dépendant qui dépend à ce moment-là, plus ou moins la moitié de l'économie équatorienne dépend du pétrole, de la production pétrolière. Et on a récupéré, et depuis 2007, on a récupéré la souveraineté du pays par rapport au pétrole. Parce qu'avant, le prix du pétrole était fixé par les corporations. Le pétrole a toujours été national en Équateur. Le problème, c'est que les Équatoriens aussi, des ministres, des présidents de la République, ont toujours négocié les contrats à la faveur des transnationales. Des chiffres très rapides, d'un dollar, de 10, on va mettre comme ça, de 10 dollars en provenance du pétrole, 9 partaient à l'étranger. Et du dollar qui restait en Équateur, 90 centimes partaient de nouveau à l'étranger pour payer la dette. Et tout ça c'était pas fixé, établi par les lois. Donc là, le premier principe, c'est de déterminer un pays qui ne dépend plus de la production pétrolière, ou pas autant. Le but final est de ne pas être dépendant à partir de 2025. Et basculer dans un modèle de société, on appelle ça le biosocialisme. C'est-à-dire une société qui met l'accent dans la vie des personnes, et tout en respectant les droits de la nature. Ça, c'est l'idéal philosophique. On appelle ça le biosocialisme, la société de la connaissance et de la créativité. Mais ce cheminement n'est pas dépourvu des contradictions. Et c'est pour ça que je vous disais au départ, que j'ai beaucoup appris aujourd'hui, quel type de sujet de recherche quel modèle pédagogique établir. Et est-ce que les universités doivent servir à donner des diplômes, à faire de la recherche? Est-ce que seulement les universités sont censées de faire cela? Et moi, je crois que pour l'instant, nous sommes encore dans une situation de réflexion et de mise en route des modèles qui sont encore très lourds, très très lourds. Et on se retrouvait face à un état des lieux où l'Équateur était dans l'incapacité de développer aucun projet de recherche. Moi, je suis un universitaire, je viens des universités, d'une université et d'un modèle des États-Unis, un college. Donc, avec beaucoup de PhD, des chercheurs formés à l'américaine, quelques Européens aussi, mais dans ce système de légitimité de la science telle qu'on la connaît institutionnellement. Mais en Équateur, il n'y avait pas jusqu'il y a quelques années aucune université qui proposait des études de doctorat. Aucune. Comment vous faites la recherche comme ça? Son laboratoire, son technologie. Donc, on a lancé un programme pour inviter des chercheurs à venir en Équateur. Il y en a des centaines maintenant qui sont là et qui travaillent dans différents domaines. On a créé des structures, des labos, des recherches très poussées avec ces réseaux. Mais le problème qui va se poser très prochainement, c'est pour faire quoi finalement? Et qui peut enrichir ce développement d'une société finalement un peu particulière? Et avec quelles données, quel savoir, mais aussi avec quelle sensibilité? Vous comprenez? Et quel est lui, la politique peut répondre plus facilement. Et on peut dire qu'il nous faut la recherche pour attaquer la pauvreté. On ne peut pas. C'est impensable de continuer à habiter un monde où les gens meurent de faim, par exemple. C'est prioritaire. Des gens, on vit dans des sociétés, en Amérique latine encore, où les enfants meurent des maladies banales. Complètement banales. De diarrhée, par exemple. Mais les solutions ne passent pas par la recherche. Non, la solution politique est très, très facile. Il faut démonter. Il faut démonter le système de propriété intellectuelle tel qu'il existe au niveau international. Il ne faut pas les respecter. Parce qu'on a besoin de ces médicaments. Ces médicaments sont là. N'est-ce pas? Vous êtes bien d'accord? Vous êtes bien d'accord? Ils sont déjà enrichis suffisamment. Ça y est, ils sont riches. On ne peut pas être plus riche. Donc la politique, c'est là, il y a des réponses. Il faut, et c'est ce qu'on est en train de faire, imposer des licences pour traiter ces maladies, pour traiter les sida, par exemple. Le sida, c'est important. Donc la politique, elle a des réponses par rapport à ça. Et le chantier qui apparaît et qui est important, et c'est là où les contributions de tout le monde sont fondamentales, c'est on est certain, c'est certain que notre société ne garantit pas le devenir de la planète, donc de nous. Parce que la planète, on s'en fout. Je veux dire, la planète, elle n'a de sens que s'il y a quelqu'un qui l'habite, n'est-ce pas? Oui. Ben oui. Un peu, quand même. Mais je vais être aussi dogmatique. Donc, s'il y a une recherche à développer, c'est une recherche qui nous aide à résoudre les problèmes de l'environnement. Et il y avait un chercheur qui parlait des chercheurs qui ont réinventé le virus de Mais c'est criminel. C'est criminel. Et c'est complètement absurde. Donc, et nous, en prévoyant plus ou moins ces réponses, ces questions, on essaye de chercher des bris, des réponses dans la politique. Donc pour nous, ce qui est important, c'est la Maçonnie. C'est stratégique. La Maçonnie, c'est fondamental. C'est pas seulement l'oxygène. C'est pas seulement ça. C'est la diversité des ressources qu'il y a dans la Maçonnie. Les entreprises pharmaceutiques, les labos bizarres, là, ils ont bien compris ça depuis très longtemps.
L'Équateur n'a pas dû accepter récemment quand même un grand chantier pétrolifère ou je sais pas quoi à la limite de la frontière.
Oui, à Yasuni.
Oui.
À Yasuni. Pourrais-je revenir tout à l'heure? Je vais parler de Yasuni tout à l'heure. Parce que l'histoire du Yasuni explique très bien les fondamentaux. Quel est le dilemme actuel, politique, économique, tous les paradoxes, les contradictions auxquelles on est confronté. Parce que ce n'est pas dépourvu de paradoxes et de contradictions. Donc la Maçonnie, c'est fondamental. Il faut faire de la recherche en Maçonnie. Mais on sait que cette recherche ne peut se faire pour se faire. Si vous passez une invitation au laboratoire allemand, machin truc, ils vont venir très vite. Ils vont investir. Et c'est juste comme le pétrole, encore pire. Donc, il faut que cette recherche soit soutenue, soit lancée par une communauté suffisamment importante, porteuse des valeurs, parce que c'est pas juste important pour nous, c'est important pour tout le monde, pour toute la planète. Donc là, on a installé une université, ça s'appelle IKIAM, qui va ouvrir ses portes là, dans ces jours-ci, avec 150 étudiants à peu près. Des gens de la Maçonnie. Donc ça c'est un chantier fondamental. C'est des particules qui vont être nécessaires pour répondre aux questions essentielles qui vont s'imposer d'ici 10 ans, 15 ans. Il faut commencer, et on n'a pas la réponse, mais il faut commencer à construire les éléments pour répondre à ces questions. Il nous faut du temps. Et ce n'est pas nous. Ça va être une génération, la génération qui nous suit, et encore. Mais il y a un troisième volet qui est encore plus important, auquel on a encore beaucoup de difficultés pour attaquer, mais qu'à mon avis est le plus important, et c'est le volet culturel. C'est ça. Parce que là, à peu près, on est dans la même longueur d'onde. Mais on ne pense pas tous comme ça. Et on n'a pas la même expérience et on ne vit pas le monde de la même manière. L'Équateur s'est reconnu en 2007 avec la Constitution comme un pays plurinational. Interculturel, pas multiculturel, interculturel. Donc, quand on pense à ça, on dit la science, le savoir, la connaissance, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Comment se situe, comment se dire nous situe par rapport au monde, aux autres? Par exemple, chez les Shuar, donc une grosse communauté indigène de l'Amazonie, les Européens les appelaient les Jivaros, les réducteurs de tête. Ils s'appellent pas Jivaros. Le nom de ce peuple est Shuar. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Shuar. Les Shuar, pour les Shuar, la connaissance n'est pas un substantif. Elle n'a pas un sens substantif. Elle a un sens impératif. Ce n'est pas le savoir, c'est sachez, connaissez, découvrez, voyez. Ça n'a pas ce sens un peu rigide. Donc, je prends cet exemple parce que nous-mêmes en Équateur, on a des discussions très fortes et très importantes par rapport à ça. Comment on imagine une société plurinationale et interculturelle? Parce qu'il n'y a pas une seule connaissance, il y a des connaissances. Et ça met en question toute la question de la valeur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Et comment on voit l'autre? L'Équateur a été un pays, comme tous les pays colonisés par les Européens, et un pays essentiellement raciste. Essentiellement raciste. C'est un pays qui émerge du génocide. Il ne faut pas oublier ça. Donc on construit sur des cendres. Comment on construit sur des cendres? Comment on se reconstruit sur des cendres? C'est ça la question. Et le problème, c'est que cette situation coloniale continue malgré cet espoir et cet optimisme qu'on peut avoir. Là, très récemment, au cours de l'année 2013, on a assisté à un conflit fratricide entre deux peuples de l'Amazonie, les Taromenane Tagaeri, et le peuple Waurani, que les Européens appelaient Aucas. Un conflit de morts, quelques morts, la vengeance. Des dizaines de morts, des enfants, des femmes, séquestration des femmes. Vous voyez tous les éléments de la mort liée à des rituels, à des symboles que nous, on ne peut pas comprendre. De quelle justice peut y avoir par rapport à ça? Donc ce peuple, le peuple Tagaer et Taromenani qui a été responsable, qui a été l'objet de d'une massacre très importante, est un peuple en pleine disparition. En pleine disparition. On appelle ça des peuples en isolement volontaire ou non contacté. Eh bien, ces gens-là, ces expériences, mais surtout ces gens, ces corps, sont en train de disparaître devant nos yeux. Et on ne peut pas faire grand-chose. On n'arrive pas à apporter des réponses. On peut construire des universités. On peut attaquer la dette. On peut améliorer beaucoup de choses, c'est clair. Mais par rapport à ça, on n'y peut rien. Parce que nous n'avons pas les réponses culturelles suffisantes. Pour que vous voyez la portée, l'importance de ce projet. Parce que, de toute manière, l'importance de ce projet, je le dis à titre absolument personnel, c'est qu'on peut se poser la question. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé là. C'est une question qui est en train d'arriver depuis des décennies. Combien de peuples en Amazonie n'ont pas disparu? Combien? Ici, on appelle ça des tribus. Ce sont des peuples. Ce ne sont pas des tribus, c'est des peuples. C'est des cultures. C'est des sociétés entières. On a des GPS, des ordinateurs et tout ça. Donc, le défi, c'est celui-là. Et je disais, je veux conclure avec ça, le volet culturel est indispensable pour définir quel type de rapport avec la connaissance en général, quel type de connaissances il nous faut. C'est clair qu'il ne nous faut plus des connaissances pour enrichir certaines corporations. Il faut en finir avec ça. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, ça ne fait pas du bien. Il faut finir avec ça. Nous, il faut finir, c'est fini, on n'en veut plus. Mais de l'autre côté, il faut imaginer, il faut mettre en route les moyens pour repenser tout ça. Et comment le faire? Nous, on croit que la seule manière de le faire, c'est en commun. En commun. Et il faut imaginer comment c'est ce en commun. Comment on s'associe, comment on se retrouve, comment on discute, comment on partage, comment on fait de la recherche en commun. Comment on formule des hypothèses en commun? Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Moi, je veux le faire avec vous, j'espère que vous voulez le faire avec moi. Si on ne le fait pas en commun, il n'y aura pas d'intérêt commun. Et c'est ça qu'il faut trouver. La question du Yasuni. L'Équateur a proposé, en 2007, de ne plus extraire du pétrole d'une partie du territoire. Ce secteur s'appelle Yasuni Itete. On a fait une estimation de combien de pétrole il y avait là-dedans et on a déterminé qu'il y avait l'équivalent à l'époque du prix du dollar de 2007, début 2008, l'équivalent de 8 milliards de dollars. Pour l'économie équatorienne, c'est beaucoup. Pour l'économie équatorienne, c'est beaucoup. Vous voyez, ça c'est la différence. Pour nous, c'est énorme. Un dollar, c'est beaucoup. Donc 8 milliards. Après, je vous fais le chiffre. Donc on a dit, et l'idée était extraordinaire, Kyoto ayant eu le résultat qu'il y a eu, les États-Unis n'ont pas signé, n'ont jamais signé aucune charte qui a un rapport avec des droits, ils n'ont pas signé. Que ce soit lié à l'environnement, que ce soit lié aux droits de l'homme. Aucune. Que je sache. Par exemple, en Amérique latine, la charte des droits de l'homme de la région. Ils n'ont pas signé. Donc Kyoto, tac, nous on a proposé de ne pas extraire le pétrole. Et quelle a été la proposition de l'Équateur? On va dire à la communauté internationale, on n'exploite pas ce pétrole. Et la société équatorienne investit la moitié du fonds, donc 4 milliards, parce qu'on ne va pas les avoir. Et la communauté internationale, qu'elle paye le reste. Un fonds. Ce fonds, on a dit, on a signé, devrait être administré par les Nations Unies, les PNUD. Pour qu'on ne dise pas que ah, les Équatoriens, ils ne savent rien, ils sont. Parce qu'il y a aussi ces stéréotypes, n'est-ce pas? Oui, ces gens du Sud ne sont pas clairs, ne sont pas responsables. Tout ce tralala est raciste, xénophobe, c'est ça. Donc on a dit, on va le gérer avec les Nations Unies, pour que tout soit clair, pour que l'intérêt en commun soit là. Vous savez combien d'argent on a récupéré? Même pas 100 millions de dollars. Donc il faut tirer beaucoup de leçons par rapport à ça. Une, c'est que nous, on a mal proposé le projet. Il se peut. Ben, on peut l'assumer. On est nul, on a proposé un projet, on l'a mal expliqué. Qui sait? Peut-être. N'est-ce pas? Il se peut que nous, on a mal expliqué le projet, qu'on l'a mal formulé. D'ailleurs, on l'a formulé avec des rapports techniques, scientifiques, au niveau international. Mais on va dire qu'on aurait pu se tromper par rapport à la mise en forme du projet. Mais on peut aussi lancer l'hypothèse suivante. Personne s'intéresse à ça. Et les lobbies des pétrolières, des États, a joué un rôle. Qui sait? Qui sait si on imaginait que le projet Yasunite était progressé dans la voie que nous on désirait, peut-être ils ont eu peur que vous alliez chez le maire lui dire que vous ne voulez pas d'exploitation du gaz de schiste et que finalement, nous autres, les citoyens, nous avons une opinion et que cette opinion est respectable. C'est une hypothèse. Eh bien, on n'a pas réussi et le gouvernement de l'Équateur a décidé d'entamer l'exploitation d'une partie de ce pétrole. Parce que nous avons besoin d'attaquer la pauvreté. Et les autres dossiers. Nous, en 2015, c'est la fin de ces objectifs. Et nous, on les a très largement accomplis. Oui. Mais vous voyez, là, ce sont des... Ce n'est pas dépourvu de contradictions, évidemment. C'est très compliqué, c'est très complexe. Mais il faut que la discussion continue. Et, du point de vue électoral, oui, tout à fait. Et nous avons gagné 10 élections en tout. Tout ce qui est, quand on compte la constituante... Les référendums qu'on a fait, les présidentiels, les législatifs, on les a toutes gagnées, ces élections. Donc, du point de vue électoral, il y a une démocratie très, très solide, oui, oui, oui. Oui. Et on a la constituante de 2008, elle a recomposé le système de l'État. Donc, en Équateur, il n'y a plus seulement trois pouvoirs, donc le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Maintenant, il y a cinq. Donc, il y a un pouvoir électoral et il y a un pouvoir citoyen, des citoyens. Le cinquième est le plus difficile à mettre en place. L'idée de la... Quelqu'un le discutait aussi, de la représentation, de la... ou de la participation. Donc ça c'est quelque chose qui c'est un immense chantier, oui. Oui. C'est le plus complexe, mais les instances locales, elles ont beaucoup plus de pouvoir maintenant et des budgets aussi. Le budget est décentralisé. Nous avons traversé les mêmes crises qui posent le capitalisme aujourd'hui ailleurs. On les a traversées déjà, si ça répond un petit peu à votre question. Donc à ce niveau-là, il y a une expérience qui est profitable. Le rapport, par exemple, avec la Banque mondiale, le FMI et tout ça, je pense qu'on a fait il y a une expérience qui est importante. Mais autrement, chaque nation, chaque pays, ce sont des réalités très différentes. Correa, il disait par rapport à la France, et il disait la France est comme la situation de la France est comme celle d'un verre plein. Et le verre, il est plein. Et vous avez toutes les ressources. Et nous sommes en train de remplir le verre.